Bonjour à tous, bienvenue dans cette session qui va parler de HTML5 et de CSS3, puis de JavaScript également. Alors, vous pouvez commencer par donner vos avis sur ce que vous avez pensé de la plénière, sur le fait que ma démo a planté sur la Xbox, que la Xbox a planté, et sur la session que vous allez voir juste derrière. Donc on va parler pendant à peu près une heure. Donc, je m'appelle David Rousset, je suis ce qu'on appelle un évangéliste technique. On dit de plus en plus ce terme, ça vient des États-Unis. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @davrous, je suis assez consistant, @davrous, davrous@microsoft.com, c'est mon email, et mon blog, c'est blogsmsdn.com/davrous. Alors c'est parti, alors avant de commencer, j'aimerais bien savoir un petit peu qui on a dans la salle, qui se considère comme développeur web dans la salle. Ah, ça fait plaisir. Qui se considère comme développeur, on va dire natif, quel que soit le langage, C#, C++. D'accord. Donc on a des gens qui font les deux, c'est une bonne chose. Donc on va voir un petit peu les dernières avancées, principalement supportées par notre navigateur. Il y a plein d'autres choses qui sont en train d'arriver dans les différents autres navigateurs et au niveau du W3C. On va regarder l'état avec Internet Explorer 10, bien sûr. Hein, je vais vous parler principalement de notre navigateur. Tout ce que je vais vous montrer, je vous dirai quand ça tourne chez nous et chez les autres, ou si ça tourne que chez nous. Alors, on est vraiment engagé sur les standards, vous l'avez vu je pense depuis Internet Explorer 9, on s'est bien bougé les fesses, on est revenu sur un support propre des standards HTML5, CSS3, ça avait commencé avec IE8, avec HTML4, CSS2.1, et là sur IE10, on a un support qui est quand même relativement vaste des spécifications telles que définies actuellement par le W3C sur l'aspect HTML5 et tout ce qui est CSS3. Donc on va voir ce qu'on implémente aujourd'hui. On a une très bonne expérience immersive, alors on a la version plein écran sur Windows 8, sur le téléphone, et ça fonctionne très bien en tactile. On fera un petit aparté à la fin sur le tactile. Il y a plein de débats intéressants autour du tactile en ce moment. La bonne nouvelle, c'est tout ce qu'on voit aussi dans cette session. Bah, lorsque vous irez voir les sessions Windows 8 autour de HTML5 JavaScript, c'est les mêmes notions qui sont reprises, puisqu'en fait, le moteur, vous l'aurez compris, des applications Windows 8 est IE10 derrière. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est strictement le même moteur. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui fonctionne de la même façon sur les téléphones Windows Phone 8. Donc là, voilà, une fois que ça tourne dans IE10 sur l'un, normalement, vous n'avez pas de soucis sur les autres versions. Alors voilà le planning de cette heure. On va commencer par tout ce qui tourne autour des nouveautés de CSS3. J'en ai choisi certaines d'entre elles, il y en a beaucoup. Des nouvelles API autour de HTML5, la gestion de l'offline, Indexed DB, ce genre de choses, de drag and drop. Le support du touch. Il y aura une session dédiée sur le touch demain où on fera une petite annonce sur un travail qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Et vous verrez qu'il y a deux spécifications. Je vous expliquerai pourquoi et on espère que c'est la nôtre qui va le remporter, c'est pas mal parti et je vous ferai un petit aparté là-dessus aussi. Alors commençons par tout ce qui est graphique, tout ce qui est plaisant au regard, qui permet de briller en société, tout ce qui est lié au layout. Donc côté IE10, on a pas mal de supports, vous le voyez, des spécifications CSS, alors il y en a qui venaient de IE9, comme 2D Transform, Background and Border, ce genre de choses. On a des nouveautés comme 3D Transform, je vous montrais tout à l'heure. Le support des animations qui ont deux formes, les transitions et les animations, on va voir ça ensemble. Flexbox, le grid, spécification grid, qui est particulièrement intéressante, qui est utilisée massivement dans nos applications Windows 8, les media queries, multicolonnes, tout ce genre de choses intéressantes. Donc c'est une liste qui est présente là à titre de référence. On va se focaliser sur celles qui sont un peu mises en avant en gras ici. Donc on va commencer par voir un petit peu le grid layout. Donc imaginons qu'on veuille construire cette planche de jeu, mais de façon quel que soit le layout que vous voulez construire, on a une structure en type de grille. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait du web, je pense que vous avez tous galéré pour faire des structures en type grille sur le web, encore plus si on vous demande d'avoir des designs fluides. Aujourd'hui, on a une spécification qui est arrivée avec IE10 qu'on a soumis au W3C, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a été repris par le W3C, qui permet de simplifier la création de ces layouts. Là, vous voyez sur la planche qu'on a en haut à gauche le logo du jeu. On va voir des parties extensibles, c'est-à-dire des parties qui seront fixes en pixels et d'autres qui vont pouvoir prendre le reste de la résolution qui est disponible. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites du développement web, la promesse, c'est ce fameux multi-plateforme promis par HTML5, qui est loin d'être simple à réaliser, mais qui commence à être possible. Un des problèmes, c'est la multiplication des résolutions. Pour résoudre ce problème, on va travailler non plus en pixels, mais ici en fraction unit, comme vous voyez ici, et on va pouvoir découper l'écran de manière proportionnelle. Pour mieux comprendre, je vous propose de voir un petit peu à quoi ressemble le HTML. Donc là, vous voyez le HTML qui est un ensemble de divs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des divs, d'autres balises sémantiques, peu importe. Donc ça va être vraiment le contenu de votre page. Et une fois que j'ai fait ça, pour pouvoir structurer mon layout en grille, je vais changer le display. Alors aujourd'hui, comme il y a uniquement Internet Explorer 10 qui supporte ces spécifications, il faut le faire en -ms, mais dès que les autres l'ont implémenté dans webkit-webkit-mos-o, etc. Et une fois que vous avez switché le display, vous allez définir le nombre de colonnes que vous souhaitez. Là, j'ai deux colonnes. La première colonne va automatiquement prendre la taille de l'élément qu'on va mettre dedans. Donc si j'ai un élément de 200 pixels, ma première colonne fera 200 pixels dedans. Et le reste, en disant 1fr, je lui dis prend tout l'espace disponible qui est à la droite, quelle que soit la résolution. Vous n'avez pas besoin de calculer la résolution qui est disponible. Ensuite, sur le nombre de lignes, je vais avoir trois lignes. Pareil, la première ligne qui va prendre son contenu de manière automatique. Ensuite, une partie flexible au centre, à nouveau en utilisant la notion de 1fr, et la dernière partie qui sera, on va dire, automatique, donc en fonction du contenu que je vais mettre dedans. Donc le mieux, c'est de voir ensuite comment on ventile tout ça. Bah, vous prenez n'importe quel sélecteur CSS, bon là c'est le plus simple d'entre eux, c'est à travers l'identifiant, et ensuite vous allez dire où habite l'ensemble de vos différents divs. Donc bah, le titre, il va être dans la colonne 1, ligne 1, mais on peut voir des choses intéressantes, comme par exemple la partie contrôle sur la dernière ligne, il va être en deuxième colonne, deuxième ligne, il peut également se centrer soit verticalement, soit horizontalement. Pareil, c'est des trucs qu'on a tous galéré à faire pour centrer ça. Si vous venez du monde, on va dire, des applications lourdes, lorsqu'on a fait, moi je faisais beaucoup de XAML avant, bah, c'était assez simple, et en arrivant en CSS, c'est toujours un peu complexe de faire ce genre de choses, en pur CSS en tout cas. Bah, là, la spécification le prend directement en ligne de compte. Donc regardons une petite démo de ce que cela donne. Hop. Donc, vous voyez, j'ai tous les navigateurs. Je vous incite à faire la même chose, de tester dans tous les navigateurs et pas juste dans le merveilleux Chrome. Donc là, c'est là. Alors, je ne suis pas designer. Oui, ça pique les yeux. Mais le but du jeu, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on voit, si je redimensionne ma fenêtre, qu'en fait, le contenu reste toujours aux mêmes proportions. Donc si je fais ensuite la touche F12 chez nous pour avoir la barre de développement et que je vais cibler un des éléments ici, ce qu'on va voir, c'est comment j'ai structuré ma grille. Vous le voyez ici. Donc là, j'ai 1fr, 2fr, 3fr, ça veut dire que la première colonne va prendre 2/5 de mon espace et la deuxième colonne 3/5. Donc voilà, vous raisonnez comme ça de manière proportionnelle. Sur les lignes, ben, ça va faire 1/3, 2/3, bon, c'est pas très compliqué en termes de maths. Et si même vous voulez le changer, imaginons que je veux que 50% pour chacune des deux lignes, j'ai qu'à changer uniquement ici mon layout en faisant 1fr, 1fr. Et je me suis planté. Non, c'est bon, ça marchait. Et là, j'ai bien 50%. Donc vous voyez, c'est une spécification extrêmement simple à utiliser, mais qui résout des problèmes sur lesquels on a tous beaucoup galéré, je pense. Et on va voir qu'on va pouvoir le coupler avec plein d'autres spécifications pour faire de jolies choses. Alors, warning, ça ne fonctionne aujourd'hui uniquement dans Internet Explorer 10. On espère vraiment que les autres navigateurs s'y intéressent. Mozilla va annoncer le support en 2012, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire avec Firefox OS, donc ils ont dû le décaler plus tard. Et tout le monde est intéressé, bien évidemment, donc on espère que tout le monde l'est pour que vous puissiez l'utiliser en masse sur le web. Pour l'instant, c'est que chez nous. Donc on va regarder comment on peut coupler ça, donc la démo on l'a vu, avec Media Queries, puisque je vous parlais tout à l'heure de la multiplicité des périphériques, mais il y a aussi les orientations à prendre en ligne de compte. Donc imaginons que je veux commencer sur cette première planche qu'on voit ici. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je passe sur une media queries de type landscape, en paysage. Vous avez vu, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne sur la quasi-totalité des applications Windows 8. Je vais pouvoir appliquer finalement une première définition de grille et également commencer à ventiler mes contrôles d'une certaine façon. Mais si j'estime que cette grille de jeu n'est pas adaptée à une visualisation en mode portrait comme celle-ci, donc le designer vous dit en mode portrait, je pense que le jeu serait mieux de cette manière-là, il sera plus lisible, l'ergonomie sera plus sympa, mais vous avez juste finalement à mettre une orientation en type portrait et changer finalement la façon dont vous allez ventiler ou le spanning que vous allez mettre en place. Vous pouvez même bien définitivement de redéfinir la grille en elle-même, c'est-à-dire rajouter un nombre de colonnes ou de lignes si vous le souhaitez. Donc on va voir ce que ça donne en démonstration. Hop. Je vais prendre la deuxième démo ici, donc toujours les merveilleuses couleurs. Et ce qu'on va voir, c'est que lorsque je vais Alors je simule finalement des résolutions différentes, on ne fait jamais ça, on ne s'amuse jamais à redimensionner sa fenêtre, sauf nous qui testons à chaque fois nos designs, je pense qu'il n'y a que les développeurs web qui font ça. Vous voyez bien que la façon dont le layout se présente est différent. Donc on a juste une gestion de l'orientation qui est différente. Si je lance ça dans un simulateur, qui est assez pratique, ça vous pouvez l'avoir gratuitement si vous installez Visual Studio 2012 Express. Vous avez un simulateur qui permet de tester comme si vous étiez sur une tablette Windows. Ici, et si jamais ensuite je fais une rotation sur la droite par exemple, on voit bien le layout qui réagit à cette media queries. Donc cette media queries me change juste la façon dont structure ma grille lorsque je passe de l'un à l'autre. Et si on regarde le code source de l'ensemble, c'est extrêmement simple, il n'y a pas grand chose finalement. On a une première media queries qui est quelque part, allez où, là voilà, on a le portrait. Et c'est des choses que vous devez connaître maintenant pas mal en faisant ça sur le web. Donc ces spécifications sont intéressantes, encore plus couplées bien sûr aux autres. Hop, j'ai perdu PowerPoint, voilà. Alors les trucs qui commencent à être super cool, qui sont supportés par quasiment tous les navigateurs, 3D Transform, alors à utiliser avec précaution, parce que en général des gens comme moi, plutôt dev, ont fait n'importe quoi avec, mais on peut commencer à trouver des choses intéressantes pour le faire. Tout simplement, si vous connaissez 2D Transform, vous avez un espace supplémentaire à la 3D dans lequel vous allez pouvoir bouger votre élément. Donc à utiliser avec précaution et très simple à mettre en œuvre. L'avantage, c'est que toutes ces nouveautés CSS, quand vous les utilisez, ce qu'on appelle, ils sont matériellement accélérés ou natifs, c'est-à-dire que derrière, il y a du code C++ qui prend le relais et ça va être nettement plus efficace que si vous calculiez vous-même finalement en JavaScript l'ensemble. Donc quand vous pouvez, faites-le en CSS. Le multicolonne, pareil, ça vient du monde du print, en fait. C'était assez compliqué à faire. On voit que l'œil est plus à l'aise pour lire finalement des petites lignes rapidement. Vous voyez sur les journaux, les magazines. Et lorsque vous commencez à avoir des merveilleux moniteurs 27-32 pouces à la maison en 2500 et que la ligne a fait tout ça, il y a des œufs qui saignent à la fin de la journée. Donc l'idée, c'est d'avoir des petites lignes plutôt à parcourir. Ça se fait en une ligne de CSS à nouveau. Hyphenation, j'ai perdu un caractère, je pense. Là, c'est la possibilité de gérer tout ce qui est césure en fait sur le texte de manière assez automatique. Donc, c'est pareil pour améliorer la lisibilité. Le positioned float aussi est intéressant parce qu'on va pouvoir positionner un élément de type float, on va le voir, et y avoir une interaction avec le contenu. Donc ça pareil, ça faisait partie de la science-fiction il y a quelques années. On va voir couplé à d'autres spécifications, on peut faire maintenant des layouts très complexes avec très peu de lignes de CSS. Le mieux, c'est de le voir en démonstration, il me semble. Donc, on va commencer par 3D Transform. Alors, c'est pareil, il faut avoir suivi un peu à l'école. Donc, moi, je ne joue pas trop avec 3D Transform. On va commencer par faire une rotation sur les Y. Et ensuite, vous pouvez ajouter une translation 3D. Vous voyez pourquoi ça ne doit pas être mis dans les mains de n'importe qui. Parce que moi, je ne sais pas trop ce que je dois faire, en fait. Je trouve ça rigolo, donc je peux jouer des heures avec ça. Ne vous faites pas choper par votre patron en train de faire ça en disant quoi, mais non, je teste les nouveaux CSS3, je ne comprends pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est ultra simple à utiliser. Vous voyez ? Alors, premier truc que vous devriez noter, qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de préfixe là-dessus. Alors, Internet Explorer 10 était le premier à. En même temps, c'est le dernier à chaque fois implémenté le dernier truc, vous me direz, donc c'est bien normal, à supporter un ensemble de spécifications CSS non préfixées. Donc transform, animation, transition, index.db, tout ça, c'est pas préfixé. Firefox l'a désormais également, Opera aussi. Il n'y a que, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, WebKit pour le faire, j'espère qu'ils le feront bientôt, mais moi de plus en plus, maintenant, je ne mets plus de préfixe sur ces trucs-là, en disant, maintenant, ça tourne partout. Quoi. Alors le problème, c'est que certaines de mes démos ne marchent plus dans Chrome, ça me fend le cœur, franchement, mais bon. Alors ensuite sur les autres types de containers, on va zoomer un petit peu. Donc la 3D, on verra une démonstration que j'ai faite dans mon merveilleux jeu. Là on voit en fait, pour vous expliquer, le contenu qui est ici actuellement, c'est une zone qui était découpée avec la spécification grid, donc il y a 4 colonnes, 4 lignes pour vous le dire. J'ai un élément pour l'instant qui est en haut à gauche que je vais mettre en float et que je vais mettre donc avec ce nouveau positioned float. Et j'ai du texte en multicolonne. Alors vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place, donc je vais juste le passer en float ici pour que vous compreniez mieux. Je vais mettre ma petite barre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, c'est un peu compliqué dans cette résolution, on va le mettre en deuxième ligne, deuxième colonne, et on peut faire du span ici. Voilà, donc on le met à peu près au milieu. Si on regarde à quoi ça ressemble, cette zone-là, on a ici notre div qui est positionné en float. Ici. C'est cette propriété, alors celle-là elle est préfixée, faites attention à la mise en place en production. Donc si vous faites ça, attendez-vous à peut-être devoir revoir votre code. On a deux façons de gérer le flow. On peut dire mon élément, je veux que le flow, le contenu finalement coule autour de mon élément. Là c'est ce qui est le cas, both, donc de chacun des côtés, sur le début de mon élément uniquement ou à la fin, vous choisissez. Donc là j'ai demandé à ce qu'il coule autour. Et si je désactive cette propriété, si je désactive cette propriété, c'est pas du tout ça que je voulais que ça fasse. Ah si, bon, et sauf qu'il m'a perdu ce que je suis en train de faire. Vous voyez qu'il est bien au-dessus du texte. Il n'a plus d'interaction du tout avec le texte. Donc le simple fait de positionner cette propriété sur un élément float, vous dites, bah voilà, il est flottant, mais malgré tout, il interagit avec le contenu. Il va falloir commencer à cogiter un peu sur le layout. Alors là, il y a un autre truc qui coule. Ici, c'est le multicolonne, ici. Le multicolonne, alors ça c'est simple, vous avez deux façons de gérer le multicolonne. Soit vous dites, bah, je veux que les colonnes fassent 400 pixels de large et t'en mets autant que tu peux sur la largeur. Soit je veux définir un nombre fixe de colonnes, ce qui est le cas ici. Pour l'instant j'ai deux colonnes et je vais le mettre ici par exemple en trois colonnes. Mais ça ne fait pas du tout ce que je veux. Ce que je vous propose, c'est que vous n'avez pas vu cette séquence, ça tombe bien, ce n'est pas filmé en live. On recommence. Hop. F12, toc. Et le multicolonne, il est quelque part. Il n'est pas là. Il est ici. En plus, moi, je suis du genre à pas me laisser faire. Ouais, je ne trouve pas. Puis personne ne m'aide, ça fait plaisir. Hein? Au-dessus? Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Ah voilà, c'est participatif. Et ça fait toujours pas ce que je veux. Ti, ah ouais, il est juste mou, quoi. Donc, on change juste une propriété, ça passe au nombre de colonnes que vous souhaitez. Assez simple à utiliser. À nouveau, je vous dis, quand vous couplez finalement tous ces layouts ensemble, vous commencez à avoir des trucs sexy, hein, je vous dis. Si je le remette à la deuxième colonne, deuxième ligne en span, ici. Vous voyez, faire ce genre de truc avant, avec très peu de lignes de CSS, je crois pas que c'était possible, d'ailleurs. Donc voilà, ça vous donne une idée de perspective de ce que vous pourrez faire bientôt. Alors ça, à part la grille qui est derrière, ça marche dans pas mal de navigateurs. On peut commencer à faire des expérimentations en production, malgré le fait qu'il y a quand même des préfixes. Mais ouais. Aujourd'hui, c'est ma journée, je pense. La Xbox is votre. Voilà. Alors côté animation transition, pour avoir des animations fluides, le mieux c'est quand même de les faire en CSS. Jusqu'à présent peut-être vous faisiez du jQuery pour vos animations, donc du coup c'est un moteur JavaScript qui va bouger les éléments. Ça va être moins fluide que si vous le faites en CSS. CSS désormais, après de longs débats finalement, s'occupe de faire aussi des animations. Donc vous avez deux façons de le gérer. Transition, la transition finalement, vous allez partir d'un état A, par exemple votre objet il est en haut à gauche, top left 0, 0, et vous les mettez tout en bas, donc vous définissez la propriété finale, et en fait, la transition, le navigateur va prendre en charge une animation et va gérer toutes les étapes intermédiaires pour aller d'un état A à un état B. Vous n'avez pas la possibilité de gérer les étapes intermédiaires, et donc c'est ce qu'on appelle du fire and forget, c'est il lance l'animation et puis c'est terminé. Mais c'est extrêmement simple à mettre en place. Vous choisissez sur quelle propriété vous voulez travailler, vous pouvez travailler éventuellement sur toutes les propriétés, ou alors vous pouvez choisir sur uniquement l'une d'entre elles, propriété top, les couleurs, ce que vous voulez. Alors si vous voulez gérer de manière plus fine les étapes entre chacune des transitions, on a les animations qui permettent de définir ce qu'on appelle des keyframes. Donc là vous allez du coup gérer de manière plus fine les étapes entre A et B. En faisant 0%, tu seras là, à 10%, tu seras là, à 50%, tu seras là, et à 100%, tu seras finalement à un autre endroit. Ces deux trucs se combinent avec ce qu'on appelle des courbes d'animation, donc soit des courbes linéaires, en général, c'est pas super sympa les courbes linéaires, soit les courbes de easing, j'ai jamais su comment traduire ça. Donc, ease in, ease out, ce genre de choses que vous avez peut-être déjà vu dans plein d'autres choses. Et donc, ou des courbes de Bézier, vous pouvez appliquer des courbes de Bézier par-dessus. Vous avez des événements JavaScript qui sont levés. Imaginons que à chaque itération d'une animation, vous avez besoin de faire un traitement de code derrière. Vous avez à nouveau des événements qui sont levés. Alors ça, c'est des événements à nouveau non préfixés. Si jamais vous voulez faire du code qui marche encore aujourd'hui partout, il faut rajouter le -webkit transition un, -webkit animation start, ce genre de choses. Pareil, aujourd'hui, ces transitions animations sont non préfixées un peu partout. Donc il faut pour l'instant rajouter que WebKit pour que ça marche partout. Et que les gens aient l'animateur les plus à jour, ça c'est un autre problème. Donc on va commencer par un code simple que j'ai mis dans JS Fiddle. J'espère que vous connaissez tous, c'est super pratique. Donc vous allez sur ce site, vous montez votre HTML, donc là il est simple, c'est juste un div, votre CSS, ça vous donne le résultat en dessous. Donc là ce qu'on voit, c'est assez simple. J'ai un rectangle 300 par 300 pixels qui sera rouge. Et là, j'indique finalement dans les propriétés au niveau de la transition, je veux que tu m'animes toutes les propriétés. Dès qu'il va y avoir un changement sur la propriété, est-ce que tu peux me l'animer, s'il te plaît? Voilà la durée de l'animation. Et là, c'est cette fameuse courbe d'animation qui est de type ease. Il y a une accélération, une décélération. Je commence par faire une transformation à 1. Et je lui dis, lorsque je vais passer ma souris au-dessus de cet élément, alors ça c'est le genre de code maintenant qu'il faut éviter, parce qu'au touch ça ne marche pas bien, mais si je passe ma souris, tu vas changer la couleur en vert, tu vas passer à 10% et faire une rotation de 45 degrés. Donc regardons le résultat, je vais passer ma souris, et voilà, en fait, j'ai aucune ligne de JavaScript, l'animation est faite uniquement au passage de ma souris. On a une animation qui est très fluide, parce qu'on dit qu'elles sont matériellement accélérées. Donc en général, on n'a pas le même genre de performance si vous le faites en JavaScript. Alors si je veux uniquement, par exemple, animer ce qui est transformation, je change juste ça. Et là, vous allez voir, normalement, la couleur elle passe directement au vert. Vous voyez ? Donc vous pouvez jouer de manière fine sur les propriétés que vous voulez animé par le navigateur en transition. Vous n'avez pas la main, comme je vous le disais, sur les étapes intermédiaires. Alors, pour avoir la main sur les étapes intermédiaires, alors, warning, cette démo est faite par un débile de Star Wars. Je ne suis pas un designer. Et donc, souvent, quand j'ai fait cette démo que j'ai mis sur mon blog, on m'a dit, ouais, d'accord, il fait des gifs animés en CSS3 animation, la belle affaire. Donc, c'est une démonstration technique. Ne faites pas ça à la maison. Ces gens sont des professionnels. Donc ce que je fais ici, j'anime donc un at CSS3 et puis je vous montrerai qu'il y a le moteur d'animation qui est derrière et utilisé dans les applications Windows 8. Toutes les animations qu'on appelle Fast and Fluid, c'est basé là-dessus. Donc on peut faire des trucs sympas avec. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les différentes keyframes. Donc vous définissez avec le mot keyframe le nom de l'animation. Donc là, ça va être faire une rotation du crâne. Je commence à 0% à 0 degré et ainsi de suite. Arrivé à 55%, je serai à nouveau à 0 degré, mais entre-temps, j'aurai changé la valeur. Une fois que j'ai défini tout ça, je vais le positionner sur mon élément avec le sélecteur CSS. Donc ce que je fais, c'est que je positionne l'animation, je lui dis combien de temps l'animation globale doit durer et le nombre de fois que je souhaite la jouer. Là, un nombre infini de fois, parce que c'est quand même super chouette de voir ce truc bouger. Donc, bien sûr, ça, à nouveau, c'est utilisé avec précaution. Comment améliorer l'ergonomie de son site web, le rendre plus attractif? C'est pas en faisant ça, je suis bien d'accord, mais c'est assez simple à comprendre, sachant que, j'étais plus loin, c'est une démo qui a été faite par quelqu'un d'autre. Il y a la version complète, et voilà, moi, je peux rester des heures là-dessus, je trouve ça chouette. Mais apparemment, tout le monde n'est pas du même avis que moi. Alors, ce que je me suis amusé à faire, puisqu'il y a des vilains navigateurs qui ne supportaient pas CSS3 animation, type... IE9, ouais, par exemple. Je me suis dit, c'est quand même dommage que ça ne marche pas pour IE9. Donc ce que j'ai fait, c'est lorsqu'on bascule en Internet Explorer 9, voilà, il me dit, t'es un gros naze, c'est pas supporté, mais que fait la police, upgrade ton browser, vous connaissez le laïus maintenant sur Internet. J'ai fait une librairie de fallback. Donc je me suis amusé à refaire toutes les animations par JavaScript. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez vraiment supporter tous les navigateurs, d'ailleurs il y a une session dont je ferai la pub tout à l'heure, je vais faire par Jérémy, vous pouvez supporter tous les navigateurs, même des vieux bousins comme IE7, c'est possible. Il ne faut juste pas faire de la caméra directement webcam en 3D avec des logos en flammes. Ça ne marchera pas dans IE7, je pense. Sauf si tu arrives à le faire, Jérémy, respect. Mais vous pouvez supporter les anciens navigateurs. Donc faites du feature detection. Ne faites pas, si c'est IE, je vais sur la branche merdique de mon source code, il nous saoule avec IE. Faites du feature detection. On en reparlera tout à l'heure. On a lancé une opération qui s'appelle Modern IE pour vous aider à faire ça. On a quand même encore une belle part de marché Internet Explorer. Ce serait dommage de couper vos clients de tout ça. IE10, c'est chouette, mais pensez aux anciens navigateurs. Et c'est le cas aussi sur des anciennes versions de Firefox qui traînent encore ou sur les téléphones. Voilà. Alors je suis chiant, hein, je fais mon laïus à chaque fois là-dessus, mais... Donc on a vu la démo. Alors dans un jeu, alors mon petit jeu à moi, on va voir comment je l'ai utilisé. Donc j'ai mon jeu qui est ici. Voilà. Toujours à portée de main. Je vais couper le son parce que la musique m'auto-soule. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai réagi au changement de redimensionnement de la fenêtre. Ça fait une animation toute chouette. Mais ça, c'est une ligne de CSS à transition à faire. Donc c'est vraiment ultra simple à faire. Une fois que je passe en plein écran, vous voyez, il fait un léger zoom, c'est sympathique et je suis en plein écran. De la même manière, quand je joue à mon jeu, ici, lorsque je vais arriver à la fin du niveau, j'ai une transition qui est faite sur du 3D Transform pour suggérer à l'utilisateur que je passe au niveau suivant. Alors, ça a l'air sympathique comme ça, mais c'est vraiment simple à mettre en œuvre, on va le voir. La manière dont je l'ai fait ici, donc je vais aller voir côté CSS. Côté CSS, j'ai une feuille de style qui est chargée ici, et on voit la transition qui est mise en place. La transition, elle se met en place sur toutes les propriétés. Donc le simple fait de redimensionner la fenêtre, finalement, je change des propriétés, la taille de mon canvas, donc il va faire l'animation pour aller d'un état A à un état B. Et j'ai également ensuite du 3D Transform. Alors comment ça se passe? Je commence par mettre une classe ici qui est la rotation initiale, où je suis à 0 degré. Et dès que j'arrive à la fin de mon niveau, je mets en place une autre classe sur mon élément qui lui va faire une rotation de 90 degrés. Et donc du coup, une fois que j'arrive à la fin de ma rotation avec l'élément dont je vous parlais, JavaScript, qui est levé, qui est l'animation est terminée, je charge mon niveau et je remets la classe initiale et l'animation est faite. Alors pour comprendre un petit peu mieux, si par exemple je prends cette classe initiale et que je passe à 45 degrés, vous voyez, il me le fait automatiquement, j'ai rien à faire, c'est la transition qui prend tout de suite le relais. Alors ce qui est rigolo en plus, c'est que vous pouvez continuer à jouer au jeu. Pareil, je suis peut-être pas un expert en gameplay, mais voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place dans vos applications, vos sites web ou d'un jeu. Alors on a parlé de pas mal de choses sympathiques côté CSS. Alors, il y a toute une foison de nouveautés dans CSS. Il faudra des heures pour vous former. Vous avez plein de sites très bien sur Internet, faits par nous ou les copains pour vous former. On va regarder un petit peu les nouveautés côté HTML5, les API. Alors pareil, il y a une ribambelle de nouveautés. La possibilité de lire des fichiers depuis le disque, la possibilité de supporter des applications en mode offline. Donc vous perdez la connexion Internet, vous pouvez synchroniser au préalable des certains fichiers pour que votre application continue de tourner malgré l'absence de connectivité. Form and validation, alors ça c'est peut-être moins wah-wah que le CSS, mais c'est très pratique à l'heure du touch, adapter finalement les formulaires de saisie, si c'est du téléphone, ce genre de choses, je vais vous montrer. IndexedDB, une base de données qui est présente côté client, on va la voir ensemble. Et on parlera un petit peu de performance avec les web workers, que j'aime particulièrement pour booster les performances, et je me sers souvent finalement aux applications Windows 8. On parlera du touch juste après. Alors comment ça marche? Vous avez un manifeste à créer, dans lequel vous allez définir l'ensemble des ressources que vous voulez avoir côté client lorsque vous n'aurez plus de connectivité. Donc ça va être à vous de choisir les fichiers à cacher. Bien évidemment, vous n'allez pas descendre tout le serveur web côté client, donc il va falloir penser à une expérience dégradée. Donc vous allez choisir les fichiers HTML, CSS, JS et les ressources, des images, des vidéos que vous voulez de disponibles. Donc ça va au-delà, bien évidemment, du cache du navigateur. Un petit truc embêtant sur cette spécification, je ne pense pas que c'était la meilleure des spécifications qui a été créée, mais elle est déjà bien pratique. On ne peut pas faire du delta sur les mises à jour. Imaginons que vous avez modifié qu'un seul fichier CSS parce que je me suis planté dans mon layout, je fais la mise à jour. Le seul moyen de redescendre entièrement, la mise à jour, c'est de tout redescendre à chaque fois. C'est soit vous prenez tout, soit vous prenez rien du tout. Donc c'est un petit peu embêtant, mais à part ça, ça marche bien. Donc quelle est la tête du fichier de manifeste? C'est celui-ci. Vous avez à gauche votre document HTML principal, qui va être peut-être l'index.html. Vous rajoutez en haut à gauche un attribut qui s'appelle manifeste. Et tu dis, voilà, la façon dont tu vas gérer l'offline est décrite dans ce fichier de manifeste, ici test.appcache. De l'autre côté, vous avez votre fichier test.appcache, qui commence par cache manifeste. Dans la partie cache, vous indiquez ce que vous voulez récupérer lorsque vous n'avez plus de connectivité. Donc le fichier HTML, JS, une vidéo éventuellement. Vous avez possibilité de définir ces fichiers, tous les autres fichiers, en fait, ils sont uniquement accessibles si jamais tu as la connectivité. Donc si je sors de ce que j'ai décrit dans le manifeste et que j'ai pas de connexion, vous aurez une erreur 404. Et vous pouvez éventuellement faire des mécanismes de fallback, de dire, bah, si jamais cette image n'est pas disponible parce que tu n'as pas la connectivité, tu vas prendre celle-là à la place comme disponible, avec peut-être un logo, cette image est uniquement disponible en offline. Chose importante, pour que tous les navigateurs arrivent à s'en sortir, il faut bien préciser le type MIME sur vos serveurs pour que le navigateur comprenne que c'est bien un fichier de cache. Je vous ferai une petite démonstration juste après. Les file APIs. Alors, file APIs, ça permet en fait de lire des informations du disque et de le traiter dans votre application côté client. Avant l'arrivée de ces API, qu'est-ce qui se passait? J'avais un fichier que je voulais travailler, bah, je ne pouvais pas. Le seul truc que je pouvais faire, c'est de le prendre, faire un upload vers le serveur web qui éventuellement faisait le traitement et me renvoyait le résultat. Le truc classique sur la gestion des photos, par exemple, j'ai peut-être pas envie d'envoyer 10 mégapixels de la photo au serveur pour que lui il en fasse finalement une petite vignette présentée sur votre site web. Bah, avec ce genre d'API, vous allez pouvoir charger le fichier finalement côté client, faire le traitement en JavaScript et envoyer le résultat vers le serveur. Encore mieux, comme on sera en offline potentiel, vous allez pouvoir charger des fichiers du système disque et les travailler même sans aucune connectivité serveur. Alors il y a des petites limitations, bien évidemment. C'est uniquement en promptant l'utilisateur que vous allez pouvoir choisir les fichiers. Vous n'avez pas le droit d'aller directement lire sur le système disque ce que vous voulez, heureusement. Il existe une spécification qui fait beaucoup de débats, qui pourrait le faire, mais tout le monde est contre, en tout cas beaucoup chez nous, sur le problème de sécurité. Ensuite, vous avez des nouvelles structures de données pour les lire. Vous avez un file reader qui va juste parcourir le fichier, un objet file, bien évidemment, et puis une structure en type blob. Parce que si jamais vous voulez charger autre chose que du texte, vous avez possibilité de charger finalement l'équivalent de données binaires, si vous voulez. Vous allez pouvoir travailler sur ces données binaires. Exemple. Je veux charger un fichier PCX qui n'est pas nativement géré au niveau du codec de décompression par les navigateurs. Vous allez pouvoir le charger en binaire, faire votre algo de décompression en JavaScript et faire ce que vous voulez derrière. Donc ça ouvre des perspectives intéressantes et vous avez un ensemble de méthodes qui sont associées. Alors à quoi ça ressemble? Vous avez à gauche le début qui prend un élément de type file ici. Si j'ai bien un élément, il va appeler la méthode getAsText et cette fonction va instancier le file reader et commencer à parcourir le fichier pour faire l'ensemble de choses. On est à l'heure des interfaces réactives, donc dites à l'utilisateur que vous êtes en train de faire un truc. Si c'est un fichier de 10 mégas, ça peut peut-être prendre du temps au plus. Donc vous avez des événements qui vous disent je suis en train de bosser et faites une petite waiting ring ou ce genre de choses pour lui dire t'énerve pas, c'est pas planté, je suis en train de charger. Et vous voyez les événements qui sont derrière. Alors celle-là m'amuse beaucoup. En fait, Internet Explorer 5 a créé le drag and drop et nous sommes juste les derniers à l'implémenter de manière standard. Donc félicitations. Donc le drag and drop permet tout simplement de prendre soit un fichier sur le bureau, le système disque, et le glisser votre navigateur. Si vous faites ça avant ce genre d'API, sans brancher ce genre d'API, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez une image, bah, il va vous ouvrir l'image dans le navigateur. Et si vous avez envie finalement de glisser l'image et de lire le contenu de l'image pour en faire un traitement, il vous faut le drag and drop APIs couplé au file APIs. Vous pouvez également rendre n'importe quel élément déplaçable sur votre document en activant juste des propriétés assez simples. On le verra en démonstration juste après. Les formulaires HTML5, alors c'est moins wawa que les autres, mais ils sont intéressants à nouveau parce qu'ils permettent vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur, surtout avec ces nouveaux périphériques. Alors moi, peut-être qu'il y a peut-être un conflit de génération quand je vois certains gamins s'en servir, mais je suis une surquiche, je fais des fautes de frappe tout le temps, ça m'énerve. Donc si jamais on me demande de taper un numéro, j'aimerais bien que directement le layout du clavier soit de type chiffre. Maintenant, c'est possible sur l'ensemble des périphériques, que ce soit Windows Phone 8, sur les iPhones, sur les Android. En couplant ça avec les formulaires HTML5, vous avez directement le layout du clavier qui est bien affiché. Donc, je vais vous le montrer. Et en plus, vous n'avez plus de code JavaScript nécessaire pour faire la validation des champs. Vous avez des règles de validation qui sont déjà appliquées. Alors, je vais vous montrer ça sur les formulaires HTML5. Donc, j'ai une démo d'une complexité inouïe. Ah, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un input type. Alors au lieu d'avoir texte, on a des nouveaux types d'input. Donc là, j'ai email. Je rajoute une propriété required en lui disant bah, tu ne peux pas aller plus loin tant que tu n'as pas fourni d'email. Sinon, je ne peux pas te spammer de pub, ça m'embête. Ensuite, j'ai type nombre, on va voir comment ça fonctionne. Et puis le submit. Donc si j'ouvre ça dans mon navigateur préféré, voilà, oui, bien sûr. Et si je clique ici, pour l'instant, il ne se passe rien parce que je suis en comportement souris. Maintenant, si je bascule sur le clavier, lorsque je passe de l'un à l'autre, vous voyez, le layout change ici automatiquement. Pareil sur un téléphone, vous n'avez rien besoin de faire le particulier. Mettez-le dès à présent dans vos sites, ça marche partout en fait. Si jamais le navigateur ne comprend pas les formulaires HTML5, il fallback automatiquement sur du texte. Pour le navigateur, un IE 9, 8, ce genre de choses, il comprendra juste une zone de texte. Donc le layout, lui, il aura un ancien layout. Donc ça coûte vraiment pas cher à mettre en place. Ensuite, si j'essaye de faire un submit, j'ai par défaut un truc qui me dit « Tu ne peux pas aller plus loin parce que tu dois soumettre une information. » Donc je vais faire Davrouch. Et là, il me dit « Eh non, je t'ai capté. Je t'ai demandé un email, donc c'est pas un email. » Donc là, je rentre microsoft.com et il est content. Donc là, il y a zéro code JavaScript qui tourne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas valider en supplément sur vos serveurs web, mais l'avantage, c'est tous ces trucs rébarbatifs qu'on faisait avant, maintenant, sont gérés de manière native. Alors ce truc moche, là aussi, vous pouvez le customiser par CSS, vous avez des nouveaux pseudo-classes que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous brancher pour faire des trucs plus jolis, si vous le souhaitez. Vous voyez, très simple à mettre en œuvre, et ça améliore vraiment l'expérience des sites web pour les gens qui viennent avec leurs gros doigts sur vos sites web. Donc ensuite, c'est à nouveau la démo de mon jeu qui implémente un premier truc. Donc là, je suis en ligne. Donc ce que je vais faire, bon, avec le chanceux comme je suis aujourd'hui, bon, on va le faire. Je coupe l'accès Internet. Je relance mon jeu et vous voyez qu'il continue de fonctionner. Et c'est pour ça aussi que c'était si simple pour moi de le copier-coller dans une application Windows 8 si vous étiez en plénière. C'est que j'ai aucune interaction avec le serveur. Une fois que tous mes fichiers sont là, moi je roule tranquille, quoi. J'ai rajouté le merveilleux logo offline pour dire t'es en offline ici, mais j'ai strictement la même expérience de jeu en fait, hein. Tous mes fichiers sont là. Au préalable, quand j'ai une connexion, en fait ce que je fais, c'est que je charge tous les niveaux et que je les mets dans le local storage et donc je suis tranquille. Si je remets le réseau ici, alors c'est pas dynamique, on peut être notifié éventuellement, mais je ne l'ai pas fait. Je vais relancer, je vais attendre qu'il récupère le net, c'est bon. Je rebascule bien sur la version online. Vous pourriez imaginer, là j'ai la même expérience online ou offline, vous pourriez imaginer d'avoir une expérience différente quand vous êtes en offline, ce qui est le cas pour certaines applications de musique, par exemple, qui le font. Vous avez accès à moins de choses, puisque forcément vous n'avez pas tout le contenu online, mais on peut télécharger par exemple certaines de vos musiques préférées en offline pour les jouer et les mettre dans la base de données qu'on verra après. Alors j'ai le support également des files APIs, donc on va le voir, et du drag and drop. Alors pour le voir, le mieux c'est d'appuyer là-dessus. On va voir le script. Drag and drop. Qu'est-ce que je fais au niveau de mon code? J'ai un élément que je monitor, que je surveille, qui est un canvas. Mon canvas, quand je vais drag and dropper des éléments, je vais du coup écouter l'événement drag and over drop, etc. Alors il y en a certains qui m'intéressent plus que d'autres. Le drag ne m'intéresse pas trop, mais le drop m'intéresse. Je lui dis, ne prends pas, stop par défaut le comportement du navigateur qui est normalement tenter d'ouvrir ce fichier. Et une fois que j'ai fait ça, je récupère le contenu qui m'est transféré. Je regarde les fichiers qui sont éventuellement dedans. Je prends le premier fichier dans mon cas. Et je vais commencer à le lire. Je vais dire, voilà, si les deux types de texte, je vais commencer à parcourir ce fichier. C'est asynchrone, hein, le lecteur de fichier est asynchrone. Donc pendant ce temps-là, il faut faire autre chose. Ça permet de libérer le UI thread. Et une fois qu'il a terminé, en fait, je vais lire le contenu et ça va être mon niveau. Donc pour vous le montrer, il faut que je charge un niveau qui est caché autre part. Hop. Trop d'organisation, tue l'organisation. Mes levels sont ici. Donc voilà, ça ressemble à ça, un niveau. J'utilise l'éditeur de niveau le plus complexe du monde, Notepad. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai mon personnage qui démarre ici. Là, des trucs à manger, des monstres, etc. Donc on va faire une copie de ce fichier, là. On va le mettre sur le bureau. Et je me dis, bon, là, les monstres, c'est vraiment trop dur, donc je vais les dégager, ici. Lui, c'est pareil, je vais le transformer en autre chose. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon jeu. Je fais drag and drop. C'est quoi ce délire, là? Ah, vous pouvez applaudir, hein. Il est mauvais le mec de chez MS. Mais c'est quoi ce délire? Bon. Je m'a vous convaincu. Ça me permet d'aller sur mon blog, qui est excellent au passage. Voilà. Tout ça a été bien évidemment prévu. Voilà. C'est pas, faut pas me prendre en photo à ce moment-là. C'est pas le meilleur moment pour prendre en photo. Alors lui, je suis sûr qu'il marche normalement. Ou alors vraiment, il y a quelqu'un qui a touché à mon code. Mais ouais, donc l'autre, je sais pas. Bon. Ne jamais changer ses démos au dernier moment. Ça, c'est une règle de base. Et donc là, vous voyez en fait que je peux, à n'importe quel moment, et si je veux rajouter un monstre de type A ici, je sauvegarde. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de monstre. On est bien d'accord, pas de monstre. Je vais sauvegarder, drag and drop, monstre. Incroyable. Donc c'est super simple à mettre en place. Merci. Et là, on peut l'imaginer pour n'importe quel type d'application. Je vous parlais de photos tout à l'heure, c'est assez classique. Je vais drag and dropper les photos que j'ai. Automatiquement, je change la résolution, je les prépare. Du coup, j'ai des petites vignettes et je dis à l'utilisateur, voilà, tu peux envoyer ces photos vers ton serveur web. Et en plus, j'économise de la bande passante. Donc c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc on a vu une idée d'intégration dans le jeu. Alors j'ai fait une blague super pouille après. Voilà. Mais c'est un designer qui... Ouais, pouille ou pas? Ouais. Bon, c'est un designer qui me l'a soufflé, je tairai son nom. Alors IndexedDB permet de gérer les fichiers dans une base de données locale. Alors il y a eu deux spécifications à un moment donné. À nouveau, je fais un petit avertissement. Une qui s'appelle WebSQLDB, qui avait été implémenté d'abord sur les périphériques iOS, iPad et iPhone. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et elle est morte entre-temps. C'est pour ça qu'on vous prévient, à chaque fois on vous dit faites gaffe, c'est du draft, hein, vous prenez des risques. Et bien là, si vous avez du code qui tournait en production, ben ça ne tourne plus que sur un iPhone ou un iPad. Entre-temps, l'autre spécification qu'elle a gagnée, c'est IndexedDB, qui n'est pas du tout basé du coup sur du SQL. Donc c'est vraiment du clé-valeur à la NoSQL. Vous allez indexer vos objets sur une des propriétés de l'objet que vous allez mettre dedans. Donc c'est une base de données objet, entre guillemets, dans le sens où vous allez insérer les objets JavaScript que vous souhaitez dedans. Bon, il n'y a bien évidemment pas de dépendance vis-à-vis de l'implémentation du navigateur, puisque c'est une spécification du W3C. Chacun l'implémente comme il veut derrière. C'est vraiment assez simple d'utilisation. Ne le comparez surtout pas à vos habitudes de, si vous avez une base de données SQL ou Oracle ou MySQL, ça n'a vraiment rien à voir dans l'usage. Par contre, ça peut aider éventuellement à avoir des données dans une base de données. C'est à vous de gérer la synchro. Souvent, les gens me demandent, est-ce que ça gère la synchro? Ben non, c'est à vous de le faire. Donc, c'est à vous de faire la logique côté client pour le faire. Alors, à nouveau, on va utiliser des images pour la démonstration. Donc, j'ai d'abord le code qui doit être présent ici, quelque part. Voilà, donc on est sur IndexedDB. Hop. Et il n'est pas là, le code. Et je me suis dit, j'ai tout mis comme un goré dans le HTML, mais non. Et on va voir d'abord ce que ça fait. Donc je charge ma démonstration ici. À nouveau, un layout merveilleux. Et j'ai déjà, ici, même si je suis en offline, j'ai déjà une image dans la base de données. Cette image vient de la base de données. Si je l'ouvre, ça ouvre une merveilleuse photo de vacances. Et donc ça, cette image est présente, même si vous supprimez l'image qui était sur le disque ou sur le serveur web, elle est toujours bien présente dans mon application. On pourrait imaginer de la musique, des objets métiers que vous stockiez dedans, des factures, ce que vous voulez. Maintenant, si je veux ajouter des nouvelles images, je vais utiliser les files API dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais chercher une autre image, ici. Ici, je sauvegarde l'image dans la base de données et maintenant j'ai deux éléments, donc celle-là, et je vais l'afficher directement depuis ma base de données. Vous avez une limite qui est cachée quelque part dans les options. Alors, je prends un risque, je ne m'en souviens jamais par cœur si elle est là. Par défaut, vous avez une base de données de 10 mégas. Vous voyez ? Alors ça, je crois que ça dépend des navigateurs. Il n'y a pas de spécification pour imposer ça. Vous pouvez nettoyer éventuellement les bases de données qui polluent votre disque. De toute façon, vous êtes averti lorsque vous dépassez ce quota. Le navigateur vous dit, cette application a besoin de plus d'espace disponible. Êtes-vous d'accord? C'est toujours l'utilisateur qui doit être roi dans ce genre de choses. Bah, si vous dites oui, bah, ensuite on passe à la barrière au-dessus. Alors je ne sais plus laquelle c'est chez nous. C'est quand même limité. Je crois que c'est de mémoire, c'est 250 mégas. Et dans les applications Windows 8, c'est... Unlimited. Donc, comment ça fonctionne ce code? Donc déjà, la première chose à faire, c'est que, à nouveau, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui le supportent non préfixé, mais il y a pas mal de versions. Donc vous avez ce type genre de code que vous devez connaître pour vous permettre de récupérer automatiquement le bon alias de la spécification IndexedDB. On fait du feature detection, si jamais vous ne le supportez pas, on s'en va. Et ensuite, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va commencer à créer la base de données lorsqu'on fait l'équivalent d'un schéma. Et dans cette base de données, je crée l'équivalent de tables qu'on appelle des object stores. Tout est asynchrone dans l'écriture dans la base de données et tout à base de transactions. Il y a deux spécifications en fait définies. Il y en a une qui est synchrone et l'autre asynchrone. Nous, on supporte que la version asynchrone dans IE10. Et donc, on peut ensuite aller écrire des données là-dedans. Et la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. C'est que je crée ma transaction pour ouvrir l'équivalent de ma table ici. Une fois que je la récupère, je vais commencer à la parcourir. Donc je fais un open cursor qui me rappelle sur ce callback là, le on success. Et ensuite je parcours avec un curseur qui part en avant, où je vais prendre l'ensemble de mes éléments et je vais commencer à faire le traitement que je souhaite. Ici il est tout simple, il se contente de prendre le nom du fichier que j'ai stocké dans la base de données pour l'afficher dans la combo box. Ensuite, comment je lis l'image? Une fois que je sélectionne un des éléments ici, je vais directement faire un get dans l'object store. Et le get, il prend quoi? Il prend une clé. Donc imaginons, là, dans mon cas, c'est assez simple, je mets des fichiers images. Donc j'ai quoi? J'ai mon image en elle-même qui est stockée en blob, l'équivalent de binaire, si vous voulez. Et j'ai le nom du fichier qui me sert de clé, ce qui est assez logique. Donc la manière de récupérer, finalement, l'enregistrement de ma base, c'est de donner le nom du fichier. Mais ça peut être un GUID à vous, ça peut être une composition avec la date du jour, l'heure. Vous faites ce que vous voulez. Pour la clé, il faut qu'elle soit unique. C'est le seul principe pour que ça fonctionne bien. Et une fois que je récupère tout ça, je fais quoi? Alors ça, c'est intéressant. J'ai besoin, à partir de mon jeu de données qui vient de ma base de données IndexedDB, qui est pour l'instant du blob, les contrôles HTML, ils ne savent pas quoi en faire directement. Donc j'ai besoin de transformer ça en URL particulière. Et la manière dont ça se fait, alors ça c'est du standard, vous avez fait windows.url.createObjectURL, et si vous voulez, il va préparer en mémoire une URL de données où il va mapper finalement votre structure de données sur cette URL que vous passez un tag image. Et le tag image, lui, reçoit une image qu'il est capable d'afficher. Il prend une URL qui est juste un peu particulière grâce à cette ligne de code. Et voilà comment charger des images depuis une base de données. C'est le même principe si vous voulez stocker de la vidéo. Alors, stocker de la vidéo, il y a des clients qui me demandaient des fois, que ce soit pour les applications Windows 8 ou pour les applications dans le web, vous avez vu qu'on a quand même un quota qui est important. Les performances sont pas mal, l'IndexedDB, mais si vous voulez commencer à charger des mégas de données, ça commence à se sentir malgré tout. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des scénarios pour le faire. Alors, on a été un peu plus loin. Hop. On avait fait une démonstration pour certains qui étaient là l'année dernière, qui s'appelait SnapX. J'ai pas mis l'URL, c'était intelligent ça. J'ai dû le mettre dans les favoris, comme quelqu'un d'organisé que je suis. Ouais. Et SnapX, en fait, utilisait massivement IndexedDB et quasiment toutes les spécifications que je vous ai montrées depuis tout à l'heure. Donc le temps que le serveur web se réveille. Il va charger finalement un ensemble de jeux de données côté client, ici. Donc là, au démarrage, on met une petite animation d'attente. Ce qu'il est en train de faire, c'est de télécharger plein d'images qu'il met dans la base de données, aussi tout le jeu d'applications qui est disponible en offline. Une fois qu'il a fait ça, je peux couper complètement l'accès au réseau. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des diaporamas, comme on le voit ici. Donc, le diaporama permet de choisir les images que vous voulez faire. Vous voyez là, quand je passe ma souris, on voit un exemple d'utilisation de 3D Transform qui n'est pas bête, le petit panneau qui se fait. Donc ça, c'est vraiment agréable à l'utilisation, on comprend ce qui se passe. Et lorsque je clique dessus, je vais pouvoir faire les fameuses transitions dont je vous parlais tout à l'heure, les mettre en place avec différents types d'animations qui ont été préfaites. J'applique l'effet et il enregistre immédiatement en fait, le résultat de toutes les actions dans un graphe d'objets qui sérialise finalement dans cette base de données IndexedDB. Et du coup, cette application entièrement autonome, c'est ce qu'on appelle une application de type SPA, pour Single Page Application. Ça, c'est vraiment un concept qu'il faut vraiment travailler. C'est si jamais vous voulez aller dans le top des applications web du moment, et dans Windows 8, c'est utilisé massivement, il y a une session demain à ce sujet. Et en fait, vous avez toujours une navigation complète dans une seule frame. Vous n'avez pas d'hyperlien, comme on peut le voir. Donc, le DOM n'est pas détruit à chaque fois. Donc, il faut faire très, très attention à sa mémoire. Donc, des fois, on se dit, bon, c'est bon, le JavaScript, j'ai plus ou moins optimisé. Là, vous voyez tout de suite le leak. Alors, comment ça fonctionne? Je vais prendre des images. les images ici. Je vais prendre un truc de vacances. Je fais un drag and drop. Il cherche toutes les images depuis le disque. Il me les sérialise dans la base de données. Il me dit un titre. Bon, je pense que vous avez tous reconnu où je suis parti en vacances. Ensuite, je choisis les images que je souhaite mettre. Voilà, je les mets celle-ci, celle-ci. Très bien. Et une fois que j'ai terminé, ça me fait un diaporama que je peux éventuellement lancer. Et donc en plein écran, c'est sympa. Donc ça, c'est entièrement en HTML, JavaScript, CSS 3. Ça utilise quoi de chez nous? Ça marche dans tous les navigateurs, cette démonstration, parce que les personnes avec qui j'ai bossé, qui travaillent chez Equino, ils ont pas mal bossé pour qu'on utilise la spécification grid ici, ouais, pour faire le layout qui ressemble vraiment aux applications Windows 8. Et ils ont tout refait en float, etc., pour que ça marche dans Firefox, Chrome, etc. Donc c'est bien possible de faire ça. Alors, ça nous a coûté une blinde. Hein. Donc, si vous le faites en production, il faut avoir de l'argent dans les poches. C'est-à-dire que dès que vous faites des trucs très avancés, que vous voulez qu'ils tournent dans tous les navigateurs, ce qui est quand même la base du web, ça fait dégager le budget vers la hausse. Donc, très belle application. Je vous retrouverai le lien vers cette application sur mon blog. Il me reste 10 minutes. Je crois que je suis dans le timing. On va parler un petit peu de performance. WebWorker. Alors, je ne sais pas si vous le savez, un des gros problèmes de JavaScript, maintenant qu'on l'utilise de plus en plus pour faire des belles applications, c'est qu'à l'origine, il est ce qu'on appelle monothreadé. C'est-à-dire que tout fonctionne dans le thread de rendu, le UI thread. Le problème, c'est que du coup, vous faites un traitement important. Typiquement, vous chargez des données de la base de données IndexedDB, que vous commencez à traiter chacune des images sur cette base de données, ça va complètement geler le UI thread et pendant ce temps-là, l'utilisateur ne peut plus rien faire, voire ça freeze le navigateur ou alors ça vous fait ce merveilleux message « Ce script prend trop de temps pour l'exécution, est-ce que vous voulez le tuer ?» Et ça, ce n'est pas forcément que le navigateur est mauvais ou que le développeur a mal travaillé, c'est qu'il se retrouve de façon condamnée à partager le temps d'exécution avec le UI thread. Alors, il y a une approche qui s'appelle les web workers, pareil, qui sont supportés par tous les derniers navigateurs, iOS, Chrome, Firefox, Opera. Ça vous permet en fait de simuler le multithreading. Je dis simuler parce que c'est vraiment la notion de créer des objets à part qui vont traiter de l'information. Le seul moyen de communiquer avec eux, c'est avec une méthode qui s'appelle post-message. Donc vous allez envoyer des messages à ces workers. Et ces workers, comme tout traitement multithread, n'ont pas le droit d'accéder aux parties sensibles qui s'appellent non-thread save. Qu'est-ce qui n'est pas thread save? Malheureusement, c'est le DOM. Donc vous ne pouvez pas accéder au DOM directement depuis ces seconds threads, si vous voulez. Et tout ce qui est graphique, interdit de toucher à la couche graphique, puisque la couche graphique, c'est la propriété privée du UI thread. Une fois qu'on a travaillé avec toute cette limitation, on peut quand même malgré tout commencer à imaginer des choses. Par exemple, la base de données IndexedDB peut être manipulée depuis un worker thread, donc ça c'est intéressant. Typiquement, vous commencez à demander à 3-4 threads, on a souvent des machines quadriqueur, de bosser sur IndexedDB pour préparer l'information. Une fois que c'est fini, vous notifiez l'utilisateur et vous n'avez jamais frigé l'interface graphique. On peut imaginer faire des requêtes de type XML HTTP request vers le web et commencer à traiter les données, je ne sais pas, faire du parsing ou alors proposer éventuellement l'autocomplétion, le faire sur un thread séparé. Donc on peut faire pas mal de choses. Bon, pour l'instant, c'est peu répandu parce que c'est vraiment les tout derniers navigateurs qui l'ont, mais ça promet de jolies choses. Alors nous, ce qu'on a fait avec mon bien-aimé manager David, c'est du traitement d'image à nouveau. Alors la parallélisation, ce n'est pas une science exacte, hein, qu'on ne gagne pas à tous les coups. On va changer un petit peu tout ça. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre une image en utilisant à nouveau les File APIs. On va prendre, je suis fanat celle-là. Et ce qu'il est en train de faire là, même si vous ne voyez pas, il est en train d'appliquer un filtre type sépia qui a pris presque 3 secondes. Pendant qu'il appliquait ce filtre, comme je le faisais sur le thread principal, je ne peux plus rien faire d'autre. Je suis condamné à attendre, ça, je ne peux plus bouger la fenêtre, il ne se passe plus rien. En cochant la case et en écrivant du code, si je réapplique le même filtre, pendant ce temps-là, je peux continuer à faire ce que je veux. Sauf que j'arrive juste à cliquer sur le truc. Mes démos, elles sont extraordinaires aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a gagné un peu de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris l'image, on l'a découpée en 4, on a envoyé chacune des parties vers un thread séparé, un worker séparé. Comme j'ai une machine dual cœur hyper threadée, j'ai l'équivalent de 4 cœurs logiques, donc j'ai fait bosser au maximum les cœurs pour les adresser. Ce qui permet du coup d'avoir une optimisation de performance. Ça marche dans ce cas-là parce que l'algorithme sépia n'est pas dépendant finalement du pixel à côté. Donc je peux couper l'image en 4 et je n'aurai pas de problème. Donc on peut améliorer les performances de cette manière-là. Si on regarde le code, comment ça fonctionne. Ici, hop. Nanana. Le voilà. Ça, c'est le worker en lui-même. C'est un fichier JavaScript qui va recevoir un message, qui va recevoir des données qui viennent du canvas. La bonne nouvelle, c'est que le canvas, lorsque vous l'envoyez vers un post-message, en termes C++, ce qui se passe sur le navigateur, il fait un même copie. Donc ça va quand même super vite. Il vous transfère les données qu'il a en mémoire vers un worker et vous commencez à itérer dessus en faisant un process sépia dessus. Alors, le traitement d'image, on s'en fiche un peu à la limite comment ça fonctionne. Mais côté appel ici, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un nombre de workers. Ici, j'ai mis 4 à définir. Et je lance en fait un worker sur chacun des traitements. Et je suis appelé. Et bien sûr, je suis appelé pour savoir quand est-ce que j'ai fini. C'est quand tous les workers ont fini leur boulot. Arrivé à 4, je dis j'ai fini mon traitement et j'affiche l'image. Voilà, c'est une idée d'utilisation des workers pour gagner de la performance. Vous pouvez l'utiliser surtout pour libérer le UI thread et ça permet d'avoir des performances sympathiques. Donc on va tout de suite sauter maintenant à la dernière partie qui est la gestion du touch. On va en parler en 5 minutes et vous aurez une session d'une heure dédiée demain sur le sujet. Pointer events. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a deux spécifications. Et la spécification qui vient du monde WebKit, créé par Apple en fait, et qui a été ensuite proposé au W3C par Google, Mozilla, etc. Et elle s'est bloquée au dernier moment parce qu'Apple, ils ont dit, je crois que vous n'avez pas le droit de faire ça, il y a des brevets à nous. Donc la spécification aujourd'hui, elle est bloquée au niveau du W3C. Donc nous, quand on est arrivé en dernier, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée d'implémenter des trucs où il y a des brevets à Apple. Donc on va créer notre propre spécification, qui a un super bon écho pour l'instant sur les développeurs web. L'idée, c'est d'adresser que ce soit touch, stylet, souris de la même manière, avec ce qu'on appelle un pointer. Et ensuite, vous avez le même code, le même genre de pattern de code que vous utilisez pour la souris. Donc c'est vraiment simple à utiliser. Pour l'instant, c'est préfixé, mais on l'a poussé au W3C, on avance bien. On espère bientôt atteindre le last call, alors qu'on l'a soumis en septembre. Donc on est très pushy, on est soutenu par Google et Mozilla, donc on est content là-dessus. Et pour l'instant, ça marche que dans iOS 10, donc MS Pointer. Et ensuite, bah, vous avez un pointer out, over, etc. La même manière, down, pour le gérer, pour que ça marche bien. Quelque chose qui n'est pas dans la spécification, c'est la gestion des gestures. Donc si jamais vous voulez faire une rotation, un zoom, ce genre de choses, vous avez un objet MS gesture que vous allez devoir utiliser pour pouvoir gérer les gestures. Et un truc qui est important, c'est qu'il faut positionner une propriété CSS sur les éléments qui doivent réagir différemment au touch que le touch par défaut. Pour mieux comprendre, regardons un exemple de code. Hop. Ici. Il est extrêmement simple, c'est celui-là. L'exemple de code, il fait quoi? Ça dessine dans un canvas. Je fais du feature detection pour voir si je supporte la notion de pointer. Sinon, je fais un fallback sur la souris. Donc déjà, je peux avoir du code qui tourne dans tous les navigateurs. Et sur le move, bah, je vais dessiner des carrés dans un canvas. Et donc on regarde le résultat. Donc voilà, ça marche bien à la souris et ça marche au touch aussi. Vous voyez? Donc avec le même code, ça fonctionne partout. Si jamais j'avais enlevé le support de la souris pour les autres navigateurs, dans iOS 10, ça marchait souris, touch et stylet avec un seul type de code. Donc c'est assez intéressant, donc cette spécification marche bien. Si je désactive la règle CSS qui est là, et je la dégage même, je fais F5. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne comprend pas que je veux toucher mon canvas. Il fait ce qu'on fait par défaut lorsqu'on utilise le touch, c'est qu'il essaye de scroller sur la page. Donc cette spécification CSS, elle indique, voilà la zone qui ne doit plus réagir par défaut au touch, sur laquelle je veux recevoir les événements JavaScript pour faire ma tambouille. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir un petit peu plus loin. Alors voilà, une fois que vous avez compris ce principe, on va dire quelques minutes plus tard. Il faut qu'il charge les images. Hop. Vous avez la possibilité de prendre n'importe quel élément, de faire des rotations, comme on le voit ici, en multi-touch, dans le navigateur. Donc c'est quand même assez sympa ce qu'on peut faire avec, avec ce nouveau type de touch. Et il y a une session qui sera dédiée complètement demain pour voir où aller avec ces nouvelles spécifications. Donc là, il me reste genre une minute pour finir. Si vous en avez marre sur votre merveilleux MacBook avec votre Chrome de tester IE, on a sorti un truc qui s'appelle Modern IE. Je vais vous montrer. Il y a deux trucs sympas. C'est que ça vous dit en quoi ça peut poser problème avec IE. Pas parce qu'on ne supporte pas les standards, mais peut-être parce que vous utilisez une librairie qui est un petit peu vieille et qui ne marche pas bien. Donc vous faites scan de web page et c'est un truc côté serveur qui va vous dire peut-être que vous n'avez pas mis le bon doctype, peut-être que vous avez un souci sur telle librairie. Pensez à enlever la compatibilité par défaut avec un ancien moteur IE. Ça, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'on vous offre 3 mois gratuits de Browser Stack. Browser Stack, ça fait quoi? Vous mettez ici votre URL à tester. Et en fait, c'est des machines virtuelles qui tournent dans le cloud sur lesquelles vous allez vous connecter. Eh mais quelqu'un qui m'a fait du voodoo sur ma machine. Ils se connectent à ces VM-là. Donc vous pouvez tester votre site live et vous pouvez même faire avec un web tunnel votre machine locale, l'envoyer dans cette machine virtuelle pour tester votre design. Alors on a bien sûr du Windows 8, on voit ici. On a du XP, du Windows 7, OS X, Opera Mobile, Android. Vous avez bien sûr, pas que IE, mais tous les navigateurs qui sont disponibles. Tous les outils type les barres de debug sont déjà préinstallés. Donc là, on vous offre 3 mois gratuits. Vous allez sur moderne.ie. Et là, si jamais vous voulez tester IE 10 et voir si votre code tourne bien sur un IE 10 ou un IE 9, c'est super rapide de le faire. Alors, vous êtes dans une machine virtuelle, ne testez pas les performances de rendu que vous avez, mais ça permet de tester son layout rapidement. Gardez cette URL en tête. 3 mois gratos. Ça vaut le coup. Donc pour aller plus loin, je vous incite à aller soit sur mon blog, soit sur les démos qui sont faites sur le site de l'équipe IE. On a un ensemble de sessions qui sont disponibles. Il y a une que je vous conseille sur le développement pour tous les navigateurs, pour comment écrire du code qui marche partout. On a Coding for Fun ce soir, où j'ai des démos de HTML5 bien stupides qui devraient vous faire marrer, j'espère. Et vous avez pas mal de choses sur HTML5. Merci.